Audiolib présente Boomerang de Tatiana de Ronay, lu par Julien Châtelet. À la mémoire de Pierre Emmanuel, 1989-2006. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte et sans trace d'ombre. Henry Scott Holland. Pour Sophie et Nicolas, en souvenir d'un week-end à Dinard. Manderley n'était plus. Daphné Dumaurier, Rebecca. Chapitre 1. La petite salle d'attente est morne. Dans un coin, un ficus aux feuilles poussiéreuses. 6 fauteuils en plastique se font face sur un lino fatigué. On m'invite à m'asseoir. Je m'exécute. Mes cuisses tremblent. J'ai les mains moites et la gorge sèche. La tête me lance. Je devrais joindre notre père avant qu'il ne soit trop tard, mais je suis tétanisé. Mon téléphone reste dans la poche de mon jean. Appeler notre père. Pour lui dire quoi? Je n'en ai pas le courage. La lumière est crue. Des tubes de néon barrent le plafond. Les murs sont jaunâtres, craquelés par le temps. Hébété sur mon siège, désarmé, perdu, je rêve d'une cigarette. Je dois lutter contre un haut-le-cœur. Le mauvais café et la brioche pâteuse que j'ai avalée il y a 2 heures ne passent pas. J'entends encore le crissement des pneus. Je revois l'embardé de la voiture. Ce drôle de balancement quand elle s'est brutalement déportée vers la droite pour venir heurter le rail de sécurité. Puis le cri, son cri, qui résonne toujours en moi. Combien de gens ont patienté ici? Combien ont attendu sur ce même siège d'avoir des nouvelles d'un être cher? Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce dont ces tristes murs ont été témoins. Les secrets qu'ils renferment, leur mémoire, les larmes, les cris, le soulagement et l'espoir aussi. Les minutes s'égrènent. Je fixe d'un œil vide la pendule crasseuse au-dessus de la porte. Rien d'autre à faire qu'attendre. Après une demi-heure, une infirmière entre dans la pièce. Son visage est long et chevalin. De sa blouse dépassent de maigres bras blancs. « Monsieur Ray ?»« Oui, » dis-je le souffle court. « Vous voudrez bien remplir ces papiers. Nous avons besoin de renseignements complémentaires. » Elle me tend plusieurs feuilles et un stylo. « Elle va bien ?» tentai-je d'articuler. Ma voix n'est qu'un faible fil prêt à se rompre. De ses yeux humides, aux cils rares, l'infirmière me lance un regard inexpressif. « Le docteur va venir. » Elle sort. Elle a le cul plat et mou. J'étale les feuilles sur mes genoux. Mes doigts ne m'obéissent plus. Nom, date et lieu de naissance... Statut marital, adresse, numéro de sécurité sociale, mutuelle. J'ai les mains qui tremblent tandis que j'écris « Mélanie Ray, née le 15 août 1967 à Boulogne-Billancourt, célibataire, 49 rue de la Roquette, 75-011, Paris. » Je ne connais pas le numéro de sécurité sociale de ma sœur, ni sa mutuelle, mais je dois pouvoir les trouver dans son sac à main. Où est-il ? Je ne me souviens pas de ce qu'est devenu ce fichu sac. Mais je me rappelle parfaitement la façon dont le corps de Mélanie s'est affalé quand on l'a extraite de la carcasse. Son bras inerte qui pendait dans le vide quand on l'a déposé sur la civière. Et moi? Pas une mèche de travers, pas un bleu. Pourtant j'étais assis à côté d'elle. Un violent frisson me secoue. Je veux croire que tout ceci n'est qu'un cauchemar et que je vais me réveiller. L'infirmière revient et m'offre un verre d'eau. Je l'avale avec difficulté. L'eau a un goût métallique. Je la remercie. Je n'ai pas le numéro de sécurité sociale de Mélanie. Elle hoche la tête, récupère les papiers et sort. Les minutes me semblent aussi longues que des heures. La pièce est plongée dans le silence. C'est un petit hôpital dans une petite ville, aux environs de Nantes. Je ne sais pas vraiment où.